La quinzaine du commerce équitable organisée du 7 au 22 mai va être une occasion pour nous de préciser ce que représente ce terme de commerce équitable. Et nous allons le faire avec les cafés Malongo qui fêtent leurs 30 ans de commerce équitable cette année. Et bon, c'est quand même la première entreprise française de commerce équitable. C'est aussi le café avec les dosettes papier, ça c'est pour l'écologie, mais ça compte également. Et puis c'est également le label entreprise du patrimoine vivant, c'est décerné par l'État pour les entreprises qui font preuve non seulement de dynamisme, mais qui savent pratiquer l'excellence à longueur de temps. Alors, notre invité, bien sûr, c'est le directeur général de Malongo, Jean-Pierre Blanc.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes l'invité de notre rédaction, mais chez vous, en fait.
Exactement, dans notre établissement qui est à Carrosse, à côté de Nice, à la 9e rue, où nous avons toute la partie torréfaction, bien entendu, qui permet de déployer les arômes.
Alors, on y arrive dans un instant.
Nous sommes les seuls à proposer ça.
Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Bonjour Jean-Pierre Blanc, merci d'avoir accepté notre invitation chez vous d'abord.
C'est un plaisir.
Et puis bah, vous allez nous dire pourquoi Malongo a été adepte très tôt du commerce équitable et pourquoi d'une façon générale le commerce équitable.
Alors, le commerce équitable chez Malongo, bon, c'est une histoire de rencontre et une histoire de passion. Donc nous fêtons les 30 ans de commerce équitable parce que c'est en 1992 où tout à fait par hasard, j'étais au Mexique pour rechercher du café bio et je suis tombé sur la coopérative historique du commerce équitable qui se trouve à côté d'Ixtepec, dans la partie la plus resserrée du Mexique, et à l'intérieur de laquelle il y avait le père Francesco Van der Hoff, qui a été le cofondateur du label Max Avelar, label de commerce équitable, le premier label de commerce équitable. Et à cette rencontre, j'ai évidemment pas pu m'empêcher de dire c'est dans cette voie qu'il faut s'engager, parce que j'ai vu des petits paysans indiens, zapotèques, mirès, chantalès, qui étaient vraiment malmenés avec des prix du café qui étaient très bas. Et l'idée, c'est comment on peut vendre à un prix convenable un café de qualité, organique, bio, voilà, qui profite aussi aux producteurs. C'est tout le début de l'histoire.
Alors, on va maintenant approfondir chaque point de vue. Il y a le point de vue du producteur, il y a le point de vue du torréfacteur et puis celui du consommateur. On va commencer donc par le producteur. Quels sont les avantages? Il y en a plusieurs.
Alors, il y a énormément d'avantages. On s'engage sur un prix minimum garanti, quels que soient les cours du marché. Alors, le café est coté à la bourse de New York. Il atteint des fois des niveaux extrêmement bas qui ne couvrent pas du tout les coûts de production. On rajoute en cela une prime de développement avec laquelle ils vont pouvoir faire des écoles, des centres de soins, etc. Plus une prime d'agriculture bio. Et cerise sur le gâteau, ça permet de les organiser en coopératives, en petites coopératives. Et ces coopératives fonctionnent dans un système démocratique, c'est-à-dire que le président, le secrétaire, le conseil d'administration ne peut pas se renouveler plus de deux fois au même poste. Donc c'était on essaie de fluidifier les relations entre les membres pour justement que ça soit profitable à tous.
Et ça permet d'avoir une activité même complémentaire du café.
Bien entendu, le café étant la base de travail de cette coopérative, les membres de cette coopérative peuvent faire développer des activités complémentaires, jardin potager, autre culture qui puisse être vendue, ou dans certaines coopératives où nous travaillons, on a monté même des torréfactions, des petites torréfactions, qui leur permet de vivre, de vendre en local du café torréfié, et donc de prendre une marge brute un peu plus grande pour pouvoir profiter de leurs produits.
Un exemple de ce que peut apporter dans un pays producteur le commerce équitable ?
Alors, le commerce équitable, ça apporte énormément. Le plus bel exemple, c'est celui qu'on a réalisé au Laos, au sud du Laos, sur le plateau des Boloven, où, il y a 10 ans, on a démarré un programme de commerce équitable avec lequel la coopérative faisait même pas un conteneur de café, hein, c'est équivalent à peu près à 18 tonnes. Et actuellement, nous importons plus de 50 conteneurs de café de cette coopérative bio équitable et on fait vivre à peu près 1000 familles dans cette zone avec des prix de revenus élevés. Et donc ça a permis aussi de faire remonter le niveau de vie de toute la zone puisque, bien entendu, comme on paye plus cher, les autres bords de champ, comme on dit, sont obligés de payer plus cher leurs produits. Donc c'est bénéfique pour tous.
Et juste encore un mot là-dessus, ça permet également, dans certains cas, de contrer des pratiques qui n'étaient pas spécialement porteuses et pas bonnes.
Voilà, mais c'est-à-dire que les coopératives, et je pense que c'est de cela dont on va parler qui est intéressant, c'est ces coopératives sont créées dans des territoires qui sont reculés, où les paysans n'ont pas moyen de faire autre chose, soit d'être soumis aux coyotes pour le café, soit de planter d'autres cultures, comme le pavot, la coca, dans des zones qui sont malheureusement comme en Birmanie, comme au Laos du Nord ou en Bolivie. Et là, nous avons déployé aussi des programmes avec l'ONU, avec l'UNODC qui est la filiale de l'ONU, pour justement remplacer le pavot par des pieds de café, c'est-à-dire supprimer d'une part cette relation
toxique,
avec un prix équivalent grâce au bio et au commerce équitable, et en même temps supprimer la déforestation, supprimer les engrais, les pesticides, et c'est ce qui ressort vraiment de toutes les études d'impact que nous avons menées. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir fonctionner et vivre dans un milieu sain, avec des revenus qui sont permanents et qui ne sont pas soumis à fluctuation.
Alors, on va enchaîner avec un petit peu de publicité. On vous retrouve, Jean-Pierre Blanc, je le rappelle, vous êtes le directeur général des Cafés Malongo, pour les applications et les projets actuels en matière de commerce équitable.
Nous sommes les seuls à proposer ça.
Mangez vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Le blé, la moisson, ça me rappelle mon enfance.
Le pain, ça m'évoque les goûters chez ma grand-mère.
Mettre les mains dans la farine pour la pétrir, c'est toujours une bonne sensation en fait.
Une bonne tartine de pain bien croustillante avec un morceau de beurre dessus.
Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain.
Passion céréales, une culture à partager.
Pour votre santé, bougez plus.
Notre vie est faite de choix. Des choix naturels, des choix raisonnés. Et il y a le choix, celui qui vient du cœur. Aujourd'hui, pour notre alimentation, plus de 7000 agriculteurs et des millions de familles ont fait ce choix. Ils récoltent, produisent, distribuent, consomment des produits bleu-blanc cœur. Car ils le savent, une agriculture engagée pour la santé de la terre et des animaux, ça donne des aliments bons pour tous. Bleu-blanc cœur, le choix du cœur.
Nous sommes les seuls à proposer ça.
Mangez vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Vous qui nous regardez en ce moment ou qui nous écoutez, vous êtes toujours sur Manger Vrai, consacré à votre alimentation d'une part, et puis aujourd'hui plus spécialement au commerce équitable avec les cafés Malongo qui pratiquent cela depuis maintenant 30 ans. Alors vous en êtes le directeur général, Jean-Pierre Blanc, et d'année en année ça se perfectionne, ça se diversifie aussi. Alors quel est votre programme à venir et ce qui est très actuel ?
Alors, les programmes à venir, c'est d'élargir le champ des coopératives avec lesquelles nous travaillons, puisque nous travaillons en Amérique centrale, berceau historique, au Mexique, où là, nous avons déployé à peu près 6 coopératives. Nous avons créé aussi un centre de formation paysans à paysans d'agriculture biologique intensive, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des rendements supérieurs avec le bio qu'avec le conventionnel, et on fait de l'échange de savoir avec d'autres coopératives. Donc par exemple, on envoie des paysans du Mexique de ce centre de formation, voir des paysans au Laos pour les former sur les techniques, les pratiques, etc. Donc ça permet de créer un réseau en fait de coopératives, et nous nous déployons aussi en Amérique centrale, bien sûr, sur d'autres pays, hein, comme le Honduras, le Pérou, ou dernièrement la Bolivie, où nous avons relancé un programme de lutte contre la coca, donc qui est maintenant actif, avec l'ONU toujours, qui va permettre de créer des cafés de qualité très aromatiques. Et d'autre part, l'Afrique de l'Est, où nous avons des programmes très intéressant, notamment sur la République démocratique du Congo, au niveau du parc des Virunga, qui est un parc national magnifique, et sur lequel le café permet de protéger les zones du parc national, puisque ça crée du revenu dans les villages qui sont autour. Donc les paysans n'ont pas besoin d'aller braconner sur zone. Donc c'est, voilà, c'est cet état d'esprit qui est différent. Et puis l'Asie aussi, qui est de très beaux produits, notamment en Birmanie, donc, où là on lutte contre la culture du pavot, qui a fait d'altitude sur un territoire de population Shan, qui est vraiment une population unique, et que l'on appuie dans ce développement, parce que vous savez que c'est très compliqué là-bas en ce moment. Et puis aussi le Laos, Laos du Nord, Laos du Sud, où là on a des résultats qui sont assez marquants, puisque notre étude d'impact, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ, c'est que ce qu'on a mis en place, bien sûr il y a le revenu, bien sûr il y a le prix, bien sûr il y a les primes de développement, bien sûr il y a la prime d'agriculture biologique, mais ce qui a marqué le plus les esprits, et notamment des femmes de paysans, c'est que le soir, quand c'est la cueillette, donc chaque paysan amène ses 60 kilos de cerises au centre de dépulpage et de déparchage, les femmes arrivent, commencent à discuter, les hommes travaillent, font le dépulpage, et ça a créé un centre de vie un peu comme on avait chez nous avec les lavoirs publics, c'est-à-dire les gens se parlent, alors qu'avant ils ne se parlaient pas d'une communauté à l'autre, d'un village à l'autre et d'une maison à l'autre. Et ce qui a le plus marqué, c'est cette relation humaine qui s'est créée derrière le commerce équitable.
Alors en France, vous arrivez à convaincre peu à peu le public, il y a des publicités qui sont très bien faites, mais par ailleurs, il y a les professionnels. Qu'est-ce que vous faites en direction des professionnels? Je crois qu'il y a des liens avec les centres de formation notamment, ou les lycées...
Les lycées hôteliers notamment, c'est-à-dire on est engagé aussi, c'est aussi ces 30 ans d'engagement avec l'éducation nationale sur les écoles hôtelières. On a formé aussi près de 30 000 élèves, et on a 3 centres de formation, un qui est à Paris, un qui est à Lyon à l'Institut Paul Bocuse et un qui est ici à La Gode, sur la Côte d'Azur. Et ces centres de formation avec 4 formateurs forment les jeunes professionnels qui vont après exploiter et préparer le café, puisque la dernière étape la plus importante, une fois qu'on a fait du bon café en amont, qu'on a bien torréfié, ben il faut bien le préparer. Et ce sont ces jeunes-là qui sont qui valorisent et qui donnent l'expression de la marque dans les établissements. Et c'est pour cette raison qu'on les forme et qu'on les a formés, qu'on continue de les former.
Et en deux mots, si c'est possible, sur quoi repose le savoir-faire au stade ultime?
Le savoir-faire de Malango?
Non, le savoir-faire de ceux qui, justement, servent le café.
Ah, le savoir-faire, c'est, un, la connaissance du produit, la connaissance la connaissance des origines, des goûts, et puis derrière, c'est savoir proposer un café différent, s'il est consommé le matin, à midi ou le soir, ou des méthodes d'extraction qui sont différentes, comme de l'expresso, ou comme des méthodes douces, comme la préparation en chémèque, etc., qui permettent de valoriser des arômes différents, notamment sur les cafés plus acidulés qui viennent d'Amérique centrale.
Merci Jean-Pierre Blanc de nous avoir éclairé sur le commerce équitable et sur la façon dont c'est appliqué par Malango.
Merci.
Alors on peut maintenant à loisir écouter, réécouter, partager cette émission sur bien sûr www.mangezvrai.net. À la semaine prochaine sur Mangez Vrai.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Auguste Escoffier a consacré sa vie à installer au cœur de l'époque moderne un rêve très français. Celui d'une cuisine qui se hisserait au rang des beaux-arts et dont les chefs jouiraient du prestige et de la liberté de création réservée aux grands artistes.
Il a vu ici, dans cette maison, sa maman et sa grand-mère cuisiner et il a eu ses premiers émois de cuisine. Il voulait être sculpteur, mais son père, Maréchal Ferrand, lui a dit « c'est pas un métier, mon fils, tu vas être cuisinier et tu vas aller travailler dans le restaurant de ton oncle à Nice, le restaurant français. » Il avait 13 ans.
Rejoignez-moi et retrouvez tous les épisodes du podcast consacré à la vision sociale d'Auguste Escoffier sur Mangez Vrai, la radio qui s'écoute où on veut, quand on veut.